Mission Vision avec Alain Renaud.
Bonjour et bienvenue à ce 12e épisode de Mission Vision, réalisé en partenariat avec le RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Aujourd'hui, une émission à trois volets, alors que le RAM amorce une campagne d'adhésion dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. La communauté de pratique, dont je vous ai entretenu déjà plus tôt dans certains épisodes de Mission Vision, que je reçois, un invité qui viendra nous parler d'un événement festif auquel nous convie la communauté de pratique. Et le centre, pour terminer, le centre Seagull, de son côté, nous présente sa prochaine saison avec audio description. Et voilà, je vous présente donc mes invités dans un tout petit moment. Comme je vous disais en présentation, trois sujets aujourd'hui à Mission Vision avec trois invités. Je commence par notre dernière invité, notre dernière portion d'émission, donc dans notre dernière demi-heure. Je m'entretiens avec Laurie Bourgeois de la nouvelle saison en audio description au Centre Seagull. Juste auparavant, je vais recevoir Claudia Parent du Centre MAI, Montréal Art Interculturel, pour nous parler d'un événement organisé par la communauté de pratique. Donc, on parle des arts de la scène et puis de l'accessibilité au niveau des arts de la scène. Ce sera dans notre deuxième portion d'émission. Je commence cette émission en vous présentant la nouvelle campagne d'adhésion au RAM. Pour ce faire, je reçois Sandrine Bastarache, qui est conseillère en affaires publiques dans un petit moment. Donc, c'est sous le thème de « Ensemble, on y voit » que s'amorce donc la campagne d'adhésion au RAM durant la Semaine québécoise des personnes handicapées. Du cinéma, du théâtre et de la danse avec audio description. Des annonces vocales dans les bus, dans le métro, pour arriver à bon port, des feux sonores pour traverser une rue de façon sécuritaire, des sites web accessibles pour y naviguer sans s'y égarer avec un lecteur d'écran pour une personne non-voyante. Ce sont tous des aspects de la vie quotidienne qui ont été facilités au fil des années pour les personnes avec une personne aveugle et malvoyante, grâce aux actions et au travail de regroupements comme le RAM. Mais il reste toujours à faire et ce n'est pas le travail qui manque et c'est à ce à quoi s'active le RAM. Le RAM accompagne et soutient et contribue à l'avancement des droits et à l'autonomie des personnes aveugles et non-voyantes dans la région de Montréal, à Montréal, la région de Laval et de la Rive-Sud, et ce depuis plus de 40 ans. Mais pour nous présenter peut-être plus concrètement ce travail de terrain, nous recevons ma collègue Sandrine Bastarache, qui est conseillère en affaires publiques, pour nous présenter des exemples de types de missions auxquelles s'attaque le RAM. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alain.
Qui est en ligne justement sur la rive sud, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, à Belle-Oeil.
À Belle-Oeil. Est-ce que Belle-Oeil fait partie du territoire que couvre la rame?
Oui, effectivement.
bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation, puis aussi en même temps présenter, comme je disais, une campagne d'adhésion au RAM dans le cadre de la semaine québécoise des personnes handicapées, donc lieu qui se tient du 1er au 6 juin, si je ne m'abuse. Et puis, c'est ça, je me disais que c'était peut-être une parmi tant d'autres de des employés du RAM qui travaillent sur tellement de dossiers en même temps que souvent j'ai de la misère à te suivre. Et puis en même temps, je trouve que ça peut être un très bon exemple du travail qu'accomplit un regroupement, un groupe communautaire de défense des droits comme le RAM. Et puis, comme on s'est parlé un petit peu plus tôt, je pense que on peut y aller peut-être dossier par dossier par rapport à tout ce dont, surtout ce que tu touches finalement, peut-être présenter un peu ton poste finalement comme conseillère en affaires publiques.
Ah oui, mon rôle, ça consiste à défendre les droits et les intérêts des personnes aveugles et malvoyantes. Puis pour ça, je fais souvent valoir nos revendications devant des instances comme les municipalités et les entreprises. Puis j'ai un gros dossier qui prend beaucoup de mon temps, même si je touche à plusieurs petits dossiers, c'est tout ce qui est question d'accessibilité à l'information.
Mm-hmm. Ça peut-être préciser un peu, là, qu'est-ce que ça veut dire exactement, l'accessibilité à l'information, là, dans le cadre de ton travail puis de la situation, justement, de défense de droits de personnes non-voyantes, malvoyantes?
C'est très large, là. Ça pourrait être, par exemple, tout ce qui est l'affichage, quand il y a un affichage qui est seulement visuel pour des files d'attente, par exemple. Mm-hmm. Mais nous, au RAM, ce qui a retenu beaucoup notre attention là, dans les dernières années, c'est tout ce qui est accessibilité du web, parce que aujourd'hui, tout ce qui est communication, souvent, ça passe par les sites web, ça passe par les communiqués. Puis nous, on travaille très, très fort pour que tout ça soit accessible.
Mmh. Puis, c'est ça, comme j'en parle souvent à l'émission, mais l'accessibilité web, là, pour qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une personne non-voyante ou malvoyante? C'est quoi l'enjeu là, exactement pour expliquer aux gens peut-être qui nous écoutent pour la première fois et qui n'ont jamais entendu parler de lecteurs d'écran ou de jazz ou etc. Juste peut-être faire un petit topo là-dessus. Là. Qu'est-ce que c'est l'accessibilité web là, pour une personne? Qu'est-ce que ça implique, là, cette problématique?
Dans l'idéal, c'est qu'on veut que les gens puissent naviguer un site web sans obstacle. C'est sûr que l'accessibilité web, ça dépasse largement les personnes aveugles et malvoyantes, mais c'est sûr qu'au RAM, on se concentre sur ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que principalement que toutes les logiciels, mais ça dépasse les logiciels, mais que les logiciels de lecture d'écran, par exemple, puissent naviguer un site web d'un bout à l'autre sans rencontrer d'obstacles pour que les gens puissent utiliser le web en toute autonomie.
Mm-hmm.
Un donc, petit résumé, là.
C'est ça. Si, je peux me permettre aussi peut-être de toujours, souvent peut-être le répéter, mais le lecteur d'écran pour une personne non-voyante, c'est un logiciel qui va lui permettre de naviguer à partir souvent de juste les quatre flèches là, de son clavier. Et à chaque onglet, phrase, ça va être lu par une voix de synthèse, hein.
Oui, puis l'information visuelle va être transmise d'une autre manière.
Donc, de façon auditive, là,
ouais.
Par une parole. Oui.
On travaille aussi, je suis désolée de t'avoir coupé, mais tu sais, par exemple, pour les logiciels de Zoom, que je sais que tu utilises,
ouais.
Pour que ça fonctionne bien sur un site web, ça veut que ça dépasse les lecteurs d'écran, là, mais
okay.
C'est vraiment... je pense que les lecteurs d'écran, c'est l'exemple le plus frappant. Mm-hmm.
Le plus frappant aussi, le plus problématique, peut-être le moins connu de l'ensemble de peut-être des gens en général, des programmeurs, etc., à savoir que c'est ça, si le codage de tous ces sites-là et pas fait en fonction de l'accessibilité, le lecteur d'écran va accrocher, il va pas pouvoir lire tout ce qu'il doit lire, toute l'information qui devrait être transmise à la personne avec son lecteur d'écran sera pas accessible, c'est un peu ça. Là. Il va pas, le lecteur d'écran va passer au-dessus d'un onglet qui va avoir été mal codé, un onglet qui veut dire « enter », par exemple, ou « payer », ou etc., là. Fait que il y a ça. Mais comme tu dis aussi, d'autres aspects là, de l'accessibilité, justement, au niveau de Zoom, pour grossir les caractères, qui, comme tu dis, c'est pas seulement une question aussi pour une personne malvoyante, mais personne âgée, personne avec, etc. Ça peut être nécessaire d'avoir ce type de possibilités là, sur un écran, sur un site. Donc, voilà. Donc, on parlait d'accessibilité numérique. Ensuite, d'autres problématiques, là, justement, avec qui, par rapport aux municipalités, là, quand vous êtes dans les discussions par rapport à l'accessibilité.
Oui, c'est ça. Tout ce qui est les municipalités, en fait, je participe au plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Puis moi, j'émets des recommandations d'action, de mesures pour améliorer l'accessibilité. Puis ça passe beaucoup par tout ce qui est communication, transport et déplacement sécuritaire. Là. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de nos dossiers qu'on touche au RAM qui passent par ces plans d'action-là, puis aussi par d'autres rencontres que je vais faire dans ce milieu-là, ouais.
Puis on parle de plan d'action pour les personnes handicapées, hein, le PAPH, est-ce que c'est ça exactement,
oui,
dans ça, le jargon?
Oui, ouais,
le PAPH, ça, c'est partout à travers le Québec?
C'est toutes les municipalités qui ont plus que 15 000 habitants.
OK. Doivent avoir un plan d'action.
Oui, c'est obligatoire.
OK. Et donc, il va y avoir des tables de concertation, il va y avoir des rencontres avec différents groupes pour, justement, de défense là, des personnes handicapées.
Dans l'idéal, oui. On voudrait que c'est le plus de groupes possibles qui puissent participer à ces rencontres.
OK, OK. Ensuite, c'est ça, tu as parlé de... on parle aussi de sensibilisation, je pense, dans ces mandats-là, là, justement, par rapport au fait que les tables de concertation existent, les municipalités doivent respecter le plan d'action, mais c'est pas toujours très concret, finalement, peut-être, justement, quand vient le temps de poser des actions ou poser des gestes au niveau du mobilier urbain, etc. Donc, c'est là que tout intervient, si je peux...
Oui. Ouais, je vais faire des fois, on va, j'ai pas dû les rappeler à l'heure, mais on va mettre de l'emphase sur certains aspects qui ont été négligés ou qui ont peut-être été mal faits. Ouais, c'est ça. On travaille très fort pour que les correctifs soient faits.
OK. Puis ben, si je prenais peut-être ton travail aussi, tu parles avec les municipalités, mais aussi, je pense qu'au RAM, on a aussi des objectifs de mieux de mieux faire sentir notre présence auprès des municipalités de Laval et de la Rive-Sud. Je pense que t'es quand même un de tes dossiers où t'as beaucoup été active là, dans la dernière année.
Oui, on était. Si je prends l'exemple de Laval, on n'était pas très présent avant l'an passé. C'est pas qu'on voulait pas, mais c'était une question de temps et d'effectifs.
D'énergie, là, finalement, de possibilités en personnel, etc.
Oui, c'est ça. Puis on est arrivé en même temps, ça a libéré un peu plus de temps, puis ça a permis. Avec l'aide beaucoup du regroupement des organismes de promotion de droits des personnes handicapées de Laval, on s'est beaucoup intégré à plusieurs représentations qui nous ont recommandé. Puis, tu sais, l'année passée, on a participé à 11 ou 12 rencontres, ce qui est comme 10 fois plus nombreux que les autres années d'avant.
C'est ça.
Ça fait que ça a vraiment permis de participer à des instances comme la politique de développement social, où on a même fait des rencontres pour le site web. Ça fait que ça a été une belle occasion de détendre notre présence dans le territoire.
Sur le territoire de Laval. Quand tu parlais qu'on est arrivé tantôt en même temps, c'est que tu parlais de toi puis moi quand on est arrivé en poste.
Ouais,
c'est ça. Ouais, le 6 février, le jour de ta fête, 2023.
Ouais.
Et puis, donc, anecdote, mais c'est ça. Puis, ben, faut quand même reconnaître le fait que le travail que tu as fait nous a permis aussi, a permis au RAM d'être reconnu comme un organisme sur le territoire de Laval, parce qu'on n'a pas de bureau à Laval, mais que Laval fait partie de notre mandat, mais tu as réussi à faire accepter le fait que le RAM est un organisme accepté qui fait maintenant officiellement partie des organismes, comment on dit, là, qui font partie de Laval.
Oui, bon, c'est fait admettre au soutien municipal. Ça fait que oui, c'est quelque chose de gros parce que ça nous donne un peu plus de visibilité puis de, comment dire, de crédibilité sur le territoire de Laval.
Parfait. Un autre sujet, un autre dossier sur lequel tu travailles fort, c'est sur les terminaux de paiement, entre autres.
Oui, ouais, beaucoup. C'est un gros sujet de cette année, là, les terminaux de paiement.
OK. Qui est, bon, je sais pas si on va rentrer dans cette problématique-là, mais bon, c'est complexe. Il y en a tellement. Fait que donc, c'est un travail à long terme, on peut dire, je pense, sur ce sujet-là.
c'est très grave quand quelqu'un est obligé de donner son NIP ou à un ami ou même au caissier pour payer sa commande. Ça fait que c'est vraiment important qu'il y ait des changements à faire à ce niveau-là.
C'est ça, effectivement. L'intelligence artificielle aussi, je pense qu'un dossier
Oui, c'est un nouveau
travaille.
Dossier. Ouais, ça s'est ajouté cette année, mais on répond à l'actualité. Là, en ce moment, l'intelligence artificielle, c'est partout. Ça prend de plus en plus de place dans nos vies, puis on veut pas que les personnes aveugles et malvoyantes soient laissées de côté. Ça fait qu'en ce moment, on est en train de faire un tour de situation pour comprendre l'enjeu, mais éventuellement, on va probablement beaucoup plus pousser nos revendications pour que qu'on soit inclus là, dans cette grosse machine-là. Là.
OK. Et puis, peut-être rapidement, deux derniers dossiers. Un qui est en cours d'évolution, pour lequel on ne pourra peut-être pas donner tous les secrets, mais les épiceries, hein, les sites d'épicerie en ligne. C'est un sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé cette année.
Oui, c'est un gros dossier, puis c'est un dossier de longue date. Là. Le RAM, il travaille depuis longtemps sur la question. C'est parce que c'est tellement les épiceries c'est important pour tout le monde, hein. On peut pas, on est tous prisonniers des épiceries, on doit tous se nourrir dans la vie. Puis malheureusement pour certaines personnes aveugles et malvoyantes, c'est pas possible d'aller en magasin et de faire l'épicerie tout seul, il faut de l'assistance d'un membre de la famille ou d'un bénévole. Puis nous on croit fermement au RAM que si les sites web des épiceries étaient tous accessibles, ça permettrait à certaines personnes d'avoir une alternative pour faire leur épicerie de manière autonome. Fait qu'on travaille vraiment fort pour que ces sites-là soient accessibles.
Et puis, quand on parle de travailler fort, c'est beaucoup de représentations auprès des grandes chaînes, des grandes bannières, et ça avance très, très lentement.
Oui, c'est beaucoup de sollicitations, je dirais. On essaie vraiment de les rencontrer, puis on a seulement réussi à rencontrer une seule bannière sur trois, puis encore là, ça a été très, très long avant d'avoir une rencontre. Puis on voit pas encore nécessairement concrètement des résultats.
Okay.
Et que ouais, c'est beaucoup de travail d'aller leur demander de nous rencontrer sans avoir de réponse, en fait.
Et puis ben écoute, je sais que tout le travail que tu as fait sur ce dossier-là on va en entendre parler un peu dans les médias cet automne. Mais pour l'instant, c'est encore secret. Mais c'est ça, je convie les auditeurs à être à l'affût de nouvelles concernant l'accessibilité des épiceries à un certain poste de télévision, à une certaine émission. Alors, je termine aussi peut-être un aspect du travail au RAM, c'est que tu es responsable d'un comité qui s'appelle...
Le comité d'accessibilité à l'information.
C'est ça. Donc, tout le travail dont tu viens nous énumérer, se fait aussi en partie... En collégialité avec les membres du comité qui sont des membres du RAM. Et puis, avec ton comité, faites le tour de toutes ces questions-là, puis prenez des décisions.
Ils sont essentiels à l'avancée de ces dossiers-là. Il n'y aurait pas avancé sans l'implication des membres qui sont là présentement. Ils travaillent tellement fort pour faire valoir les revendications, puis faire des tests, puis d'être là quand on a besoin. Pour représenter les enjeux là, des personnes avec des malvoyances.
Et puis, d'où l'importance justement de notre campagne d'adhésion, c'est qu'on a besoin de membres, on a besoin de force, on a besoin de gens qui s'impliquent et puis qui peuvent faire bouger les choses justement grâce aux employés du RAM et puis la force de nos membres. Plus on est nombreux, plus nos revendications vont avoir du poids. Alors, je te remercie, Sandrine, et puis je donne le numéro de téléphone du RAM si des gens sont intéressés à devenir membre du RAM pour un coût modique de 10 $. On peut devenir aussi membre associé au coût de 20 $. Et donc, au numéro 514-277-4401. Ou bien vous allez sur le site duram.org, donc raamm.org. Je te remercie, Sandrine, et puis on se revoit au bureau.
Oui, merci Alain.
Bye bye.
Bye.
Je suis de retour en compagnie maintenant de Claudia Parent de Montréal Art Interculturel, c'est-à-dire le MEI. Et puis Claudia est coordonnatrice en engagement public au MEI. Bonjour Claudia.
Bonjour Alain.
Merci d'avoir accepté notre invitation à Mission Vision. Je t'ai invité spécialement pour un événement qui va se passer le 4 juin. J'ai déjà parlé de la communauté de pratique à cette émission à quelques reprises, et puis entre autres avec Erika Malo du Rideau Vert. Mais oui. Donc, pour se faire connaître, la communauté de pratique a décidé d'organiser un petit événement le 4 juin. Nous, notre émission va être diffusée le 1er, alors pour nos auditeurs, vous aurez 3 jours avant de... Mais bon, c'est pas nécessairement public, par exemple, hein. faut quand même le noter. Je pense qu'il fallait quand même... Mais bon, parle-nous de cet événement, Claudia.
Oui, ben c'est un événement qui souhaite célébrer l'accessibilité universelle en culture avec le comité de pratique qui a été mis sur pied, comme tu l'as dit, quelques années. Donc, il y a environ 2 ans et demi, le Théâtre du Rideau Vert a initié cette initiative d'avoir un comité de pratique qui discute des enjeux et des initiatives possibles pour les différents diffuseurs à Montréal, toutes disciplines confondues, là, qu'on soit en théâtre, en danse, en opéra. Donc, l'idée, c'était de se mettre ensemble et de discuter autour de ces possibilités et enjeux qui sont rencontrés par les diffuseurs. Au départ, les personnes qui ont été rassemblées autour de la table, c'était des personnes qui avaient déjà, au sein de leur organisation, des initiatives qui étaient déjà mises en place. Donc, l'idée, c'était de partager ces initiatives avec d'autres organisations qui possiblement n'en avaient pas ou qui étaient intéressées à en apprendre pour éventuellement en mettre en place dans leur lieu de diffusion. Donc, je pense évidemment au MEI qui a été invité au début, à Dance City, au Centre Seagull, donc à des lieux qui déjà avaient des initiatives mises en place. Et donc, l'idée, c'était, là, au départ, on était quelques-uns à discuter, on était plutôt au maximum une dizaine. Mm-hmm. Et maintenant, on est presque 65 à se rassembler. Deux mois,
avec en plus de certains sous-comités qui se rencontrent aussi.
Exactement.
Comité billetterie, comité calendrier, tout ça.
C'est ça, puis là, c'est des institutions culturelles, mais aussi des organismes en accessibilité, ou de défense de droits, aussi des personnes qui font partie du public, la diversité capacitaire.
C'est
donc,
ça.
Eux, c'est vraiment de se rencontrer, puis de faciliter un dialogue entre toutes les personnes concernées, de prendre les points de vue de tout le monde, dans l'objectif commun de favoriser l'accessibilité dans les arts de la scène à Montréal, à Québec, puis un peu partout, en fait, les gens se rallient au mouvement parce que nos rencontres se font généralement en ligne.
C'est ça.
Et là, ce sera une occasion vraiment de tout le monde être ensemble et se retrouver au MEI le 4 juin, ce qui arrive peu couramment dans le milieu artistique. Souvent, on s'assemble autour d'un spectacle.
Ouais.
Mais même encore là, on ne retrouve pas, par exemple, 15 diffuseurs.
C'est ça.
Présents. Et là aussi, l'idée, c'est de... Souvent, au sein des organisations, il y a une personne présente qui va mener les projets d'accessibilité pour les programmations. Mais là, l'idée, c'est d'inviter ses équipes de travail, les directions, pour que l'équipe au complet soit au courant de ces possibilités-là, puis de ces initiatives-là qui sont faites un peu partout, puis vraiment de les partager. Donc, que ce soit vraiment l'institution, l'organisation complète qui soit là. Puis, ben c'est sûr que l'idée aussi que les bailleurs de fonds soient présents, d'avoir plus de ressources humaines et financières pour qu'il y ait de plus en plus d'initiatives qui soient mises en place. Donc, c'est ça, c'est de se faire voir, de se faire entendre, puis d'inviter tout le monde qui peut avoir un rôle à jouer pour la suite des choses.
Mm-hmm. Parce que c'est ça, avec au-dessus de 60 membres dans la communauté, on commence à avoir pas mal le tour d'un maximum presque d'institutions, si je ne me trompe pas. Il ne doit pas rester beaucoup de théâtres ou de compagnies qui ne font pas partie de la communauté maintenant, ou d'après toi, il en reste encore un peu qui reste à...
Se
joindre.
Il y a évidemment peut-être plus des petites compagnies de danse, de théâtre qui pourraient se joindre, c'est certain. Puis après ça, c'est de voir l'implication que chaque personne va prendre. Certaines personnes viennent écouter, d'autres mettent en place une première action. Donc, tu sais, l'idée, c'est vraiment de créer un mouvement. Puis je pense que le comité de pratique, ce qu'il a formé, c'est de créer un espèce de momentum que les gens, on entend parler, je vais joindre le comité au départ parce que tu en as entendu parler, mais finalement, le fait que tu en as entendu parler va faire que ta prochaine saison, tu vas possiblement inclure une action concrète dans ta programmation. Donc, l'idée, c'est de créer justement un mouvement puis un momentum que tout le monde va dire, moi aussi, je vais joindre.
Ben oui, c'est ça. Je vais me sentir mal si j'en fais pas partie, là, à un moment donné.
Exact.
C'est
exactement.
Ça. C'est ça. On veut pas être exclu,
Ben voilà.
Ça, tout le monde va être inclus. C'est ça.
Tout le monde va être inclus. C'est exactement ça.
Ouais. Et puis, le MEI, comme tu dis, vous êtes dans les premiers, je pense, Montréal Art Interculturel, à avoir rejoint la communauté dès le début, si je ne me trompe pas.
Oui, ben le MEI avait déjà des actions mises en place depuis plusieurs années, mais nécessairement par la programmation du MEI, je crois, le MEI présente des artistes autochtones, des artistes noirs, des artistes de couleur, des artistes queer, des artistes sourds, des artistes qui ont immigré, des artistes plus âgés, des artistes en situation de handicap, des artistes neurodivergents, bref, des artistes qui souvent sont créés dans des situations de marginalité pour plein de raisons, par le fait qu'ils ont été exclus par des lieux de diffusion, dans la vie régulière. Donc, nécessairement, le MEI, en accueillant des artistes en situation de handicap, moi, par exemple, je coordonnais les productions au MEI à l'époque, ben, je me rendais rapidement compte en achetant des billets d'avion, en bouquant des hôtels, des besoins des différents artistes qu'on présentait.
Okay.
Nécessairement, ben, ces besoins, le public a besoin un peu des mêmes choses, tu sais, un artiste sourd qui vient présenter, il y a peut-être des enjeux après ça qui vont être similaires aux spectateurs, spectatrices qui vont venir voir, évidemment, puis qui ont besoin d'accès aux œuvres. Donc, il y a plein de petites choses qui étaient mises en place. Et les œuvres qui sont présentées au MEI, ben, c'est de la danse, de la musique, du théâtre, des arts visuels, beaucoup de propositions pluridisciplinaires. Donc, il y a déjà des mélanges de genres, des projets pilotes qui sont mis sur place toujours. Donc, il y avait déjà cette espèce de souci d'inclusion, puis de bien accueillir autant les artistes et les publics, évidemment. Donc, il y a différentes choses que le MEI va faire là, pour ses... c'est sûr que ça varie selon les programmations, mais déjà, le MEI est un espace où tous les espaces sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc ça, c'est sûr que ça aide pour l'accueil des artistes et des publics. Les personnes accompagnatrices ont toujours un tarif aussi à 0$, là, comme la plupart des gens ont un peu partout. On travaille aussi pour les personnes aveugles ou qui vivent avec une perte de vision. On travaille avec Densité aussi depuis 3 ans pour offrir des spectacles de danse avec audio-description.
Visite.
Donc ça, exact.
Visite tactile, je rencontre. Ben oui, déjà participé, oui.
C'est ça.
Effectivement.
Et dans ce sens-là, tout le personnel régulier du MEI a reçu une formation technique de guide voyant durable, évidemment.
Okay.
On accueille aussi des artistes qui présentent au sein de notre programmation, comme des artistes comme Audrey-Anne Bouchard,
oui,
qui, avec une perte de vision,
que j'espère recevoir à l'émission prochainement.
Ah,
écoute, juste peut-être, il nous reste de 20 secondes, donc c'est le 4 juin. C'est pas, je pense qu'on en parle parce que c'est pour faire un peu connaître la communauté de pratique. Je pense pas que c'est accessible. Je pense qu'il fallait réserver tout, mais c'est bon, il faut dire que c'est comme un peu un coup d'envoi peut-être quand même pour faire mieux connaître là, la communauté de pratique, si je me trompe pas. Ça va se passer au MEI.
C'est effectivement ça, mais effectivement, s'il y a des personnes du public qui souhaitent assister, je pense que c'est possible aussi de contacter via le lien dans le communiqué de presse. Donc,
okay.
C'est vrai que c'est plus pour les équipes. Ouais.
Ben, je te remercie beaucoup, Claudia. C'est tout le temps qui nous reste. Et puis, ben, à bientôt. On se voit sans doute le 4.
Merci. À bientôt, Alain.
Salut, merci.
Vous écoutez Mission Vision avec Alain Renaud.
Alors, vous êtes toujours à l'antenne du canal M et de l'émission Mission Vision. Je suis en ligne avec Laurie Bourgeois, que nous retrouvons au Nouveau-Brunswick pour nous présenter la prochaine saison théâtrale 2024-2025 du Centre Segal. Et on parle bien sûr ici à Mission Vision de représentation avec audio-description. Et c'est tout nouveau avec Visite tactile, si je ne me trompe pas. Bonjour, Laurie.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, ça va très bien, toi-même au Nouveau-Brunswick.
Oui, merci beaucoup, ça va bien.
Est-ce que tu es sur le bord de la mer?
Une petite rivière.
Ah, OK, sur le bord de la petite rivière. Donc, je disais, tout nouveau, on s'est parlé plus tôt. La visite tactile est plus nouvelle là, de la fin de la dernière saison, finalement, au Santiago.
Oui, exactement. On a commencé ça après le temps des fêtes cette année, les visites tactiles. C'est vraiment un projet qui a bien fonctionné. Donc, on a décidé de poursuivre ça dans la nouvelle saison théâtrale 2024-2025.
Super. Et puis, ben peut-être pour nos auditeurs qui sont, j'imagine bien, majoritairement francophones, j'aimerais peut-être qu'on présente un peu le Centre Segal parce que Il y a souvent, c'est toujours le même, les deux mêmes vieilles solitudes là, sur le territoire de Montréal. Et puis, oui. Je pense qu'il y a plusieurs d'amateurs de théâtre avec audiodescription qui n'ont peut-être pas jamais franchi le boulevard des Caries, si on peut dire, pour aller vers le Sentier Gould, pour les gens de Montréal qui connaissent la ville. Et puis, c'est ça, je sais que tu es quand même toute nouvelle au Sentier Gould dans ton poste. J'oublie de dire que tu étais responsable du marketing, si je ne me trompe pas.
Exact.
Donc, peut-être nous présenter un peu le Sentier Gould pour nos auditeurs.
Oui, bien sûr. Effectivement, je travaille là-bas depuis le mois de septembre dernier. Okay. Puis avant, j'étais dans la culture francophone, donc dans tout ce qui était là, les théâtres qu'on connaît, qu'on est habitué d'entendre, les spectacles musicaux. Puis je suis une grande, grande fan de comédie musicale,
ouais.
Et je savais même pas que le Sentier Gould était à ma portée. Fait que ça me fait plaisir aujourd'hui de vous en dire plus parce que c'est un véritable bijou caché que tous les amateurs de culture dans la région de Montréal devraient connaître. Donc, le Sentier Gould, c'est un théâtre qui présente des spectacles en anglais. De qualité mondiale. On fait beaucoup de choses qui vont se retrouver ailleurs au Canada, aussi à New York. C'est un théâtre qui va parfois produire, parfois présenter ou encore coproduire toutes sortes de pièces de théâtre qui ne sont pas nécessairement de la comédie musicale, mais qui incluent souvent de la comédie musicale.
Okay.
Donc, pour les gens comme moi qui aiment des escapades à New York ou à Toronto pour aller voir des spectacles en tournée, c'est encore plus près de chez nous, le Centre Seagull. Puis ça présente la même grande qualité qu'on aime à la maison.
Et comme tu disais plus tôt, tu as manqué ça sur plusieurs années. Là. Justement, tu te payais des voyages.
Oui, oui.
On se paye des voyages à New York ou à Toronto et puis on avait...
Exactement. On prévoit des escapades pour aller découvrir de la culture qu'on pense être loin de nous, mais en fait, on peut se l'offrir dans notre ville. Tu sais.
Ben oui, c'est fou. Et puis, à part, c'est ça, donc on va quand même pas beaucoup parler dans la prochaine demi-heure de comédie musicale parce que, entre autres, la prochaine programmation en contient, mais donc il y en a eu. J'aimerais quand même qu'on parle un peu de comment s'est passée la saison. Je pense qu'il y a une semaine, on est au micro le 27 mai, on est en onde le 1er juin, mais je pense que la semaine dernière, c'était la dernière représentation avec audio description au Sentier Gould. Enfin, peut-être tu peux nous parler comment s'est passée la saison là, 2023-2024 et puis certains des grands spectacles qui ont été présentés.
Oui, ça a été une super belle saison. Le dernier spectacle régulier, c'est-à-dire sans l'autodescription, aura lieu le 2 juin. Donc, on s'attrape à la toute fin. Comme vous avez dit, c'était le 26 mai, notre dernière autodescription. Et cette année, sur nos 4 spectacles, on a pu offrir partout l'autodescription. Ce sera aussi le cas l'année prochaine.
Okay.
Mais pour celles qui se terminent, on a commencé ça en force avec un spectacle qui s'appelle Beautiful, The Carole King Musicals. Donc, avec toute la grande musique de Carole King.
Que j'ai raté, que je regrette.
Oui.
Puis bon, en te parlant, je le regrette encore plus. C'était vraiment un des spectacles que je voulais aller voir. Moi, personnellement, je suis pas un grand amateur de comédie musicale, mais un grand amateur de musique. Puis ça m'intriguait vraiment là, d'aller voir une comédie musicale sur cette grande auteure-compositrice là, qui a composé, entre autres, pour Aretha Franklin, par exemple. Des grands hits d'Aretha Franklin ont été écrits par Carole King, et puis qui a commencé très jeune. Je ne sais pas si on le voit dans la comédie musicale,
mais
elle a commencé très jeune. Je pense à 16-17 ans, là, elle écrivait plus tard avec son conjoint. Ils ont écrit beaucoup de pièces ensemble. Donc, c'était bon.
Oui, c'était un très beau spectacle qui est ensuite allé du côté de Winnipeg. C'était une coproduction avec le Royal Manitoba Theatre Center.
Okay.
Donc, après avoir été à Montréal pour, je pense que c'était un 5 semaines environ, le spectacle est parti à Winnipeg où il y a eu un autre beau succès.
Okay.
Puis nous, on a accueilli le reste de notre saison qui, en ce moment, présente le spectacle POTUS, comme dans President of the United States,
qui
est une comédie hilarante sur le système politique américain et la force des 7 femmes derrière le président sans qui rien ne serait possible.
C'est
jusqu'au 2 juin,
okay,
on peut l'attraper. C'est vraiment un bon spectacle.
On a raté la représentation avec audio-description, mais bon.
Oui, exact.
Parfait. Puis ça aussi, ça m'intriguait beaucoup, cette pièce-là, mais... Encore là, conflit d'horaire, j'ai pas pu. Donc, j'ai raté ma saison. Maintenant, je suis allé à un spectacle plutôt au mois de juillet. J'ai vu je t'avais parlé là, de French Republic.
Oui, Prayer for the French Republic.
On était dans la programmation 2023-2024.
On était dans la précédente.
C'est ça. Donc, c'est ça. J'ai pu assister à la précédente. J'ai manqué la dernière. Puis bon, j'espère être vraiment présent à la prochaine, dont on pourra parler. Mais avant de passer à la programmation, peut-être encore d'autres aspects là, du Centre Segal. Tu m'as parlé d'une académie, entre autres, là, la Segal Academy. Tu peux peut-être nous parler un petit peu de ce que c'est exactement.
Oui, exact. Ben, la Segal Academy, c'est une académie pour les jeunes qui sont des amateurs de théâtre musical, les artistes en devenir, les artistes de la relève, si on veut, qui font des cours en parascolaire ou des camps d'été pendant l'année avec nous, des camps encore à la semaine de relâche, par exemple, pour finalement présenter des spectacles à notre public régulier, mais aussi c'est la famille, les amis. On a souvent les grands-parents qui viennent à ces spectacles-là. C'est vraiment le fun en ce moment. On a notre petite salle qui présente les spectacles de l'académie et juste en face, notre grosse salle qui présente nos vraies pièces professionnelles de la programmation officielle. Fait que là, tout ce beau monde-là se rencontre dans le lobby au centre. Ça fait beaucoup, beaucoup de vie dans le théâtre au printemps.
Beaucoup d'énergie puis d'échanges.
Oui, exact.
C'est important. Donc, il y a une grande salle principale. Il y a une petite salle. Est-ce que c'est dans la petite salle qu'on parle de l'académie? Je pense que...
Oui, l'académie présente ses spectacles dans la plus petite salle.
OK. Et puis, tu m'as parlé d'un studio aussi.
C'est le nom de la salle, exactement. La petite salle, elle s'appelle le studio.
OK, c'est là que...
Oui, puis c'est là qu'il y aura d'autres activités tout au long de l'année, comme par exemple le Broadway Café, qui est une expérience de karaoké en direct avec un pianiste professionnel. On a ça environ là un samedi par mois, un samedi par trois semaines. Puis c'est une opportunité en or pour tous les fans de Broadway, de musicals, de se réunir ensemble pour entendre des chansons qu'on n'entend pas vraiment dans la vie normale. Tu sais, les grands hits de Broadway, on les entend à Broadway, on les entend dans nos playlists Spotify, mais pour les entendre en personne à Montréal, ben ça se passe au Broadway Café du Segal Center.
Puis comme tu disais, c'est comme un karaoké. Il y a un aspect karaoké, puis tu me disais, c'est ça, c'est justement le type de chanson qu'on ne trouve pas nécessairement dans les karaokés traditionnels, par exemple.
Oui, exactement. J'ai eu le bonheur d'y aller dans les derniers jours. J'ai interprété pour m'amuser la chanson thème de la Mélodie du Bonheur, ce qui est pas du Margeau, mais qui est une belle chanson qu'on est content d'entendre dans cet événement-là assez unique.
OK. Puis ça se passe à quel moment? Tu me dis à tous les mois ou...
Environ un samedi sur trois ou un samedi sur quatre. Là, l'horaire va varier, mais c'est disponible sur le site du Centre Segal. On peut voir tous les Broadway cafés qui sont planifiés au cours de la saison.
OK. Et puis, est-ce que d'autres aspects peut-être qu'on pourrait présenter encore du Centre Segal que peut-être nos auditeurs ne connaissent pas bien?
Ouais, ben aussi, il faut savoir que le Centre Segal, c'est un organisme à but non lucratif. Au cours de l'année, on a tout plein d'activités qui vont venir aider au financement des activités. Il y a très peu des revenus qui sont basés sur l'aide gouvernementale ou sur la vente de billets. Okay. C'est vraiment le soutien du public qui vient nous aider à produire cet art-là.
Okay.
Donc, beaucoup d'activités. On a le musical fundraiser où des gens de la communauté montent sur scène et amassent des fonds pour performer. Puis des activités comme le jeudi entre amis où les gens peuvent acheter un repas qui va précéder leur spectacle.
Le spectacle,
donc, beaucoup d'initiatives.
De levée de fonds.
Oui, exactement.
Okay. Puis le centre, comme ça, est-ce que depuis combien de temps existe le centre? C'est quand même une institution qui est quand même établie à Montréal depuis un certain temps. Je ne sais pas si...
Ça fait plusieurs années. Je pourrais pas vous dire le nom exact. Je sais qu'il y a eu des changements de nom aussi.
Okay.
Ça ne s'est pas appelé le Centre Segal dès le tout début. Mais oui, c'est là depuis très longtemps. Puis comme on disait, c'est l'aspect des deux solitudes qui nous a séparés de ce petit bijou-là. Mais à partir de maintenant, on sait que ça existe. On peut plus manquer ça.
C'est ça. Est-ce qu'il y a un lien avec le Centre Sadie Brofman? Au début de ma recherche, je me suis un peu mêlé, je pense, entre le Centre Sadie Brofman et le Centre Segal.
Oui, ben si je ne m'abuse, c'était l'ancien nom, justement.
OK, fait qu'il n'y a plus de centre Sandy Brofman.
Oui, mais donc, j'ai bien fait mon petit cours d'histoire, là.
OK. Parce que c'est ça, je pensais justement je t'avais parlé plutôt d'exposition, donc ça, c'était plus un aspect qui était dans le centre Sandy Brofman, mais qui est peut-être un autre nom maintenant, mais bon, désolé, j'ai mal fait ma recherche.
Mais non, aucun problème. Puis en fait, des expositions au Centre Sigurd, ce serait pas impossible, mais pour l'instant, on n'a pas d'activité en cours à présenter sous ce chapeau-là.
Okay, on est vraiment dans les arts de la scène.
Oui, exact.
C'est ça. Et puis, ben c'est ça, peut-être qu'on pourra commencer à parler de... Ben je t'invitais, entre autres, pour présenter effectivement la nouvelle programmation de 2024-2025 qui vient de sortir. Je l'ai fait il y a 3 semaines avec Erika Malo du Rideau Vert. Et puis, juste avant qu'on se parle, je rencontrais Claudia Parent, qui elle est au MAI, le Montréal Art Interculturel. Et puis, donc, on parle tout... puis, on parlait de la communauté de pratique. Et puis, une chose importante à souligner, c'est que, justement, par rapport à l'accessibilité sur les arts de la scène, pour les arts de la scène, le Centre Sigurd est vraiment dans les premiers à Montréal. Vous êtes des pionniers.
Ouais, ben on essaie vraiment de faire tout ce qui est possible de faire. Tu sais, je parlais tantôt de financement. On a encore des grands rêves qui sont pas complétés, des projets qu'on aimerait ajouter, mais avec tout ce qui est possible d'exploiter, on l'offre aux gens dont on parlait tantôt des visites tactiles qui vont venir précéder les représentations en audiodescription. On essaie vraiment d'incorporer ça dans ce qui serait à la base de ce qu'on présente. Mm-hmm. C'est pas comme un ajout, comme quelque chose qu'on doit
c'est
avoir.
C'est ça, exactement. Et puis, ben c'est ça, comme moi, mon travail au RAM, responsable du comité culture, j'ai tout appris là, aussi dans la dernière année. Et puis, c'est sûr que la première chose qu'on m'avait dit, c'est que Sigurd était comme un des premiers théâtres à Montréal à offrir des représentations en audiodescription. Et c'est un peu grâce à votre côté pionnier de la chose qui ont amené le Rideau Vert et puis Densité, etc., embarqué dans la danse, si on peut dire.
Tant mieux. Je suis contente d'entendre que ça peut influencer d'autres personnes à offrir davantage d'accessibilité.
Et puis, est-ce qu'il y a d'autres accessibilités qui sont offertes aussi rapidement? On va prendre une petite pause, mais est-ce qu'il y a d'autres accessibilités pour... Est-ce que le langage des signes, tout ça, est-ce qu'il y a des représentations aussi, si je me trompe?
Il y a aussi des représentations offertes interprétées en langage des signes. Par contre, je pense pas que tous les spectacles de la saison prochaine ont été confirmés avec une interprétation comme ça. Okay. Mais au moins la moitié de la saison sera présentée aussi en langage des signes. Okay. Puis on a tout ce qui est de l'accessibilité aussi, mobilité réduite, tout ça. On a un volet complet sur notre site web qui présente toutes les différentes façons avec lesquelles on rend le théâtre plus accessible.
Est-ce qu'il y a du surtitrage aussi? Est-ce que tu
ça
est-ce
arrive que tu, également, oui.
Qu'il peut avoir certaines représentations avec surtitrage.
Oui, ben, parfois, ça va dépendre du public cible d'un spectacle. Comme celui que vous avez vu, avait probablement les sur-titres en français à ce moment-là, quand on parlait de la République française.
Ben, oui.
Mais je là, disais... dépendamment de ce qu'on va programmer à l'avenir, parfois les sur-titres viennent s'ajouter en fonction du public cible.
En tout cas, s'il y en avait, je les ai pas vus. J'ai pas un problème de basse vision, c'est une blague. Écoute, Laurie, on prend une petite pause et puis ben, on revient. On va prendre le temps de présenter la prochaine saison 2024-2025 avec visite tactile et audio description au Centre Sigurd. Avec Laurie Bourgeois du Centre Sigurd. Et puis, c'est le moment tant entendu où on présente à nos auditeurs à Mission Vision pour la deuxième fois une programmation complète qui sera présentée en audio description dans une salle de spectacle de Montréal pour l'instant. J'aurai peut-être la programmation du Trident à Québec prochainement. Donc, plutôt dans la saison cette année, j'ai présenté Erika Malo qui est venue nous présenter la saison de représentation accessible en audio description avec visite tactile. Vous pouvez écouter une émission précédente en allant sur notre site. Et puis, ben là, en ce moment, j'ai le bonheur d'avoir Laurie Bourgeois du Centre Seagull qui nous présente donc quatre pièces, mais plus particulièrement quatre comédies musicales, n'est-ce pas, Laurie?
Oui, exactement. Quatre merveilleuses comédies musicales qu'on est très chanceux d'avoir à Montréal cette année.
Et puis, si on y allait avec la première, qui me semble une offre assez croustillante, disons. Alléchante.
Oui, c'est un très bon mot. Le spectacle s'appelle le Titanic QUE, donc pas le Titanic comme le film qu'on connaît avec le C. C'est voulu, le Titanic, c'est une parodie en fait du film qui est présenté par le biais de Céline Dion sur okay. scène.
D'accord. Mais encore, disons. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça va être la vraie Céline qui va venir, qui va partir de Charlemagne pour venir faire ses représentations à Montréal?
Exact. Là, vous devinez qu'on n'aura pas la vraie Céline. Mm-hmm. On aura par contre une excellente imitatrice de Céline Dion qui s'appelle Véronique Claveau.
Ouais.
Qui sera sublime dans ce rôle-là, qui est très comique, très une approche là, près du public. On va parler aux gens. Il y a un petit peu d'improvisation dans ce spectacle-là aussi. Puis j'ai dit plutôt le mot parodie. En fait, imaginez-vous visiter un musée du Titanic, mais okay. votre guide, c'est Céline sur le party.
OK, d'accord. C'est excellent.
Donc, c'est un esprit ultra festif. Céline va raconter l'histoire d'amour de Jack et Rose en mettant ses chansons d'amour à l'avant-scène pour expliquer aux gens les sentiments fous que l'on ressentait entre ces deux-là.
Okay.
C'est très, très prometteur et ça commence le 27 octobre au Centre Seagull avec une date d'audio description le 10 novembre.
Le 10 novembre, c'est ça. Et puis, ben, ça a été produit. Qui a produit le spectacle?
Oui.
Les auteurs, tu peux nous parler peut-être un peu des auteurs puis de la production?
Oui. Ce spectacle-là a été produit à l'origine Off-Broadway à New York par Eva Price avec un livret de Marla Mindel, Constantine Roussely et Ty Blue. Okay. Et Marla Mindel était la première Céline à avoir eu ce rôle-là à New York. Donc, okay. une des créatrices initiales du spectacle a performé dedans pendant un bout de temps.
Okay.
Et il faut savoir que Ty Blue, qui fait aussi partie des concepteurs, sera notre metteur en scène à Montréal. Donc, on a un peu de Broadway directement ici, dans notre théâtre.
C'est extraordinaire. Et puis, semble quand même, comme je disais, assez croustillant, ça semble assez drôle, assez intriguant aussi de voir comment tout ça va être peinturé, là, le personnage et puis la mise en scène, tout ça. Est-ce que, quand on parle de comédie musicale, c'est-à-dire que ça va être des pièces au complet, là, elle va interpréter des pièces au complet ou c'est des extraits puis ça se promène ou moi qui...
Il y aura un peu de tout, là, si j'ai bien compris, à la présentation du scénario. On peut peut-être s'attendre à différents extraits, des petits clins d'œil aussi au reste de l'œuvre de Céline, mais assurément des belles grandes chansons qui pourront nous porter du début à la fin.
En tout cas, ça devrait être, comme j'imagine, un grand succès populaire, là, j'imagine, comme...
Je m'attends à ce que les billets partent assez vite pour ça. Si ça vous intéresse, Titanic, il va falloir sauter là-dessus très rapidement.
Et puis donc, on a la représentation en audio description avec visite tactile le 10 novembre. Mais comme tu viens de le dire, les billets risquent de partir vite. Je pense que c'est important de donner la date de la mise en vente des billets qui va être le 5 août, si je ne m'abuse.
Exactement. Donc, pour acheter un spectacle individuellement, il faut attendre au 5 août. Et si jamais vous êtes déjà prêt à dire, ben moi, toute la saison m'intéresse, on peut dès maintenant acheter un abonnement pour avoir toutes les audiodescriptions au calendrier.
Parfait. Ça, c'est faut le noter. Je sais pas si on peut parler de montant. Est-ce que le montant, c'est combien un abonnement pour quatre pièces? Je pense qu'on peut en parler, là. C'est pas...
J'ai pas eu les confirmations encore. Ah, okay. Je pense qu'on était à une trentaine de dollars, si je ne m'abuse.
Par spectacle.
Peut-être même qu'il y aura des rabais. Oui, exactement, par spectacle. Puis il y aura peut-être des rabais. Là, on est en attente de ce côté-là, mais on peut contacter la billetterie pour avoir plus d'informations.
Mais peut-être, juste peut-être une précision, est-ce qu'on peut acheter un abonnement des quatre pièces en audio description? Est-ce que c'est plutôt... Tu achètes le l'abonnement régulier, mais tu peux à ce moment-là aller choisir ta pièce en audio description, ou il y a un montant, il y a un tarif préférentiel si une personne veut s'abonner aux quatre représentations accessibles?
Les deux. En fait, il y a un tarif préférentiel pour l'audio description et il y a un tarif préférentiel pour l'abonnement.
Okay.
La petite surprise qui me reste à valider, puis aujourd'hui, je ne veux pas faire de fausses promesses, mais j'aimerais que ce soit possible d'avoir un meilleur prix lorsqu'on s'abonne avec de l'audio description.
Okay.
Donc, un double rabais.
OK, parfait.
C'est toujours malheureusement, je n'ai pas encore de confirmation de ce côté-là, mais c'est dans mes projets là, de ce qu'on voudrait confirmer.
OK, mais on est quand même tôt. On est quand même. Ça fait pas longtemps que vous avez dévoilé votre programmation, là.
Oui, c'était le 2 mai, donc on est toujours dans ce beau mois de
mai,
nouvelles qui sortent.
OK, ouais. C'est ça. Fait que c'est relativement récent. Alors, donc, Titanic, puis c'est ça le jeu de mots, là, c'est comme tu dis, hein, c'est pour un peu le prononcer à la française que dans le titre, on l'a mis avec UE, là. Pour faire
oui,
Titanic.
Mon interprétation de ça, c'est qu'on veut un peu se moquer de l'accent québécois qui parle en anglais. Là.
Okay.
Quand mes collègues anglophones nomment le spectacle, ils vont dire Titanic au lieu de Titanic, comme eux le prononcent habituellement.
OK, parfait. Ben écoute, on a fait le tour du Titanic, on connaît tous la fin, et puis c'est pas grave, on va y aller pareil. donc, c'est ça, comme tu me dis plus tôt, la quatrième pièce reste une surprise. Alors, on peut peut-être passer tout de suite là, à la deuxième pièce qui est Our Little Secret, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça?
Dans l'ordre chronologique, ce sera ensuite The Secret Chord, A Leonard Cohen Experience.
Ah, donc, j'ai mal tourné ma feuille, désolé. Oui, oui, oui.
Problème.
Super, The Secret Chord. C'est génial, ça aussi. Ça me semble être aussi une belle proposition. Ouais.
Oui, puis on s'attend aussi à beaucoup de billets qui partent vite pour ça parce que ça met l'excellente musique de Leonard Cohen à l'avant-scène. Donc, on peut pas remettre en question l'œuvre de ce poète-là. On le sait que c'est un succès. Donc là, imaginez-vous une version d'un concert mis en scène. Là, des beaux grands divans luxueux, les chanteurs qui sont là, qui nous présentent le répertoire. C'est un spectacle très... moi, les mots qui me viennent, là, c'est de la richesse dans les mots, de la richesse dans la poésie. Ça va vraiment être une belle expérience de redécouvrir l'œuvre de Leonard Cohen dans ce spectacle-là.
Donc, c'est pas une comédie musicale en tant que telle, hein, c'est ça, comme tu me disais, c'est pas...
Exact. On peut plutôt le présenter comme un concert mis en scène.
Mm-hmm. Donc, avec des interprètes qui sont à la base des chanteurs ou chanteuses plutôt que des acteurs. Hein, si on peut.
Exactement.
Okay.
Et avec un band aussi qui les accompagne.
C'est ça. OK. Mais quand même, avec. Est-ce que tu m'as parlé de projection dans ce cas, dans le cas de spectacle-là?
Oui, c'est exactement ça. Donc,
on
aura des projections qui vont venir agrémenter, là, ajouter des informations supplémentaires sur l'histoire racontée et la musique.
Parce que c'est ça, je posais des questions par rapport justement à l'utilité de l'audiodescription dans le cadre d'un spectacle qui est plus près, dans le fond, d'un concert que d'un théâtre, d'une pièce ou d'une comédie musicale. Mais comme tu dis, au niveau visuel, il va y avoir des choses ajoutées à tout ça. Donc, l'audiodescription va être très, très utile pour les spectateurs avec une déficience visuelle. Et puis, on parle donc du 22 décembre, je ne m'abuse encore une fois de plus.
Exactement, The Secret Chord en audio-description le 22 décembre.
OK, avec toujours visite tactile et aussi des billets en vente le 5 août. C'est pour toute la programmation que les billets vont être en vente le 5 août.
Oui, exactement.
OK. Ensuite, on peut passer peut-être au troisième spectacle qui est présenté dans cette nouvelle programmation du Centre Ségur 2024-2025.
Oui, qui s'appelle Our Little Secret, The 23andMe Musical.
OK.
Et cette comédie musicale-là, c'est une nouvelle comédie musicale qui est une production du Centre Seagull en association avec le KC18 Theatrical Production,
okay.
Qui est une boîte de production qui a présenté ce spectacle au Fringe à Toronto.
Okay.
Ça a gagné tout plein de prix, le choix du public. Ça a été un très beau succès. Donc, on amène ça ici. Et c'est l'histoire d'un homme de 31 ans qui découvre par un test d'ADN qu'il a 35 frères et sœurs.
D'accord. C'est très drôle. Tu m'avais conté ça tantôt. Je la rigole encore.
Oui, c'est une histoire drôle et une histoire vraie,
okay.
Racontée et chantée par le comédien sur scène. C'est, ça promet.
OK. Et puis, comédie musicale toujours.
Exactement, avec des nouvelles chansons originales. Et moi, je ne le savais pas, mais 23andMe, qu'on retrouve dans le titre, c'est le nom de la compagnie des tests d'ADN.
Ah, OK, OK.
Donc, c'est vraiment, comme tantôt, on faisait une référence avec Starbucks.
Oui, 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 c'est ça.
C'est un peu ce même univers-là. Là.
OK, parfait. Écoute, il nous reste une minute. Alors, on peut terminer sur cette, comme tu me disais tantôt, une pièce surprise, là, la quatrième pièce de la programmation. Pour l'instant, c'est encore une surprise. Alors,
ouais,
je ne sais pas ce qu'on peut raconter sur une surprise, mais je te laisse aller le maximum que tu peux dire sur une surprise.
Parfait. Parfait. Donc, le 22 juin, on aura une représentation en audio-description de notre pièce surprise. On est encore en train de régler les derniers détails pour vous présenter ce grand titre, mais c'est une pièce qui a gagné énormément de prix.
Okay.
Une pièce qui a été très populaire, très charmante. C'est un honneur d'avoir ça dans notre théâtre. On a vraiment hâte de vous le dévoiler.
Ben,
mais
super.
Si c'était vous, je me procurerais des billets.
D'accord. Hey, merci beaucoup, Laurie Bourgeois du Centre Seagull, de nous avoir présenté votre prochaine programmation et aussi le Centre Seagull. Ben, moi, je dis merci donc à mes invités, à Laurie, à Claudia Parent et Sandrine Bastarache, à Mathieu à la technique. Et puis, ben, je vous invite à être des nôtres dans deux semaines à Mission Vision et aussi d'adhérer au RAM.